Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est un récit en forme de deuxième chance pour Stéphane cet après-midi, sous l'œil complice mais implacable d'un autre féru d'histoire, Bruno Solo, qui justement nous parle de Louis XIV ce soir sur France 5. Stéphane va nous livrer son deuxième portrait de Louis XIV, cette fois axé sur le côté festif du souverain. Espérons qu'il se montre plus rigoureux que la dernière fois.
Louis XIV ne danse qu'à la première représentation. À 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseuse.
Alors Stéphane, cette fois on se ressaisit, hein, on vous écoute pour l'histoire du roi de la bamboche.
S'il est un roi de France qui s'y connaît en fête, en fiesta, en partie, en bamboche, vous l'avez dit, c'est bien lui. Bal, carrousel, concert, jeux d'argent, feux d'artifice, les fêtes de Louis XIV sont nombreuses et ont rempli leur objectif premier, faire rayonner la cour et éblouir l'Europe tout entière. Mais pour mieux comprendre d'où vient l'appétit festif du roi Soleil, il convient de rappeler un événement qui l'a traumatisé lorsqu'il était enfant, celui de la Fronde. Alors qu'il n'a que 9 ans, le jeune Louis est réveillé à 3h du matin dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649. Le maréchal de Villeroy, gouverneur de Louis XIV, l'habille à la hâte et le pousse à rejoindre sa mère, Anne d'Autriche, dans un carrosse. La famille royale fuit secrètement Paris, en proie à la rébellion des nobles.
Direction Varennes.
Non, arrivé au château de Saint-Germain-en-Laye.
Ah mince, je me suis trompé de Louis.
C'est Saint-Germain-en-Laye. Les fugitifs trouvent un endroit dévasté, sans feu ni meubles, donc on pouvait pas se chauffer. La première nuit, tout le monde dort sur la paille, grelottant. Et dans les jours qui suivent, les diamants de la couronne sont mis en gage pour subvenir aux besoins de première nécessité. Louis n'oubliera jamais le souvenir de cette nuit humiliante, ni les années de guerre civile qui suivront. Alors, afin de garder un œil sur cette noblesse, le roi Soleil dégaine bientôt une arme irrésistible, le divertissement. Par les fêtes, écrit Louis XIV dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, nous tenons leur esprit et leur cœur plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits. Le roi Soleil prévient ainsi son successeur, si un souverain doit savoir faire preuve d'autorité envers ses sujets, il doit savoir aussi enchanter la cour, l'émerveiller, la surprendre, divertir pour mieux régner en somme. Mais comment? D'abord en multipliant les chasses à Versailles. Louis XIV pratique la chasse à court et attire au moins 3 fois par semaine. Il emmène avec lui en forêt une foule de courtisans qu'il tient à distance afin qu'il puisse espérer gagner sa faveur. Ne croyez pas trouver de repos les autres jours. Lorsqu'il ne va pas à la chasse, le roi se promène au jardin. De 15 à 18 heures,
il est souvent... Mais jamais il bosse, le roi?
Mais si, c'est une façon de travailler.
Parce que on se moque beaucoup de Donald Trump avec ses golfs, mais là j'ai l'impression que l'emploi du temps de Louis XIV...
S'il avait connu le golf, c'était pire.
Oui.
C'est clair.
Il est souvent accompagné de la reine, parfois de son frère Philippe, mais toujours de courtisans qu'il a choisis ou d'invités de marque, comme les ambassadeurs. Les fontaines du jardin s'agitent lors de son passage. Le message est clair. Tout obéit au roi, y compris les fontaines. C'est ça le jardin à la française, c'est qu'on dompte la nature. Et pour le public, la promenade est l'occasion d'assister à cette fête du quotidien. Ne mettons pas les activités aquatiques. Un grand canal accueille au bout du jardin une flotte miniature de navires de guerre dans laquelle le roi déambule. Louis XIV, premier roi à avoir doté la France d'une vraie flotte militaire, y affirme ainsi sa force et sa puissance. Et les courtisans vont jusqu'à construire leur propre bateau de plaisance pour pouvoir naviguer à ses côtés. L'hiver apporte son lot de réjouissances au château. Les sports de glisse se multiplient sur la surface du canal gelé.
Champion de curling, Louis XIV.
La mode des courses de traîneaux, mais oui, l'Europe du Nord, à la fin du XVIIe, devient une habitude de la cour. Les traîneaux dorés, peints ou sculptés en animaux sauvages deviennent des objets luxueux et festifs. En fin de journée, après l'emploi du temps harassant de l'après-midi, les courtisans se retrouvent au château pour les soirées dites d'appartement.
Il est temps de se détendre un peu. Après les courses de traîneau et la chasse à clous.
Entre 18 et 22 heures, collation, jeu de hasard ou de cartes. À l'époque, le trick-track est à la mode. C'est l'ancêtre du backgammon. À ne pas confondre avec les jeux de cartes ou d'adresse comme le billard. Les courtisans jouent beaucoup d'argent au point que certains nobles se ruinent ou d'autres font fortune. Louis XIV laisse faire sans grande passion. Au commencement que cela fut établi, écrit Saint-Simon dans ses mémoires, le roi y allait, y jouait quelque temps, mais dès lors, il y avait longtemps qu'il n'y allait plus, mais il voulait qu'on y fût assidu et chacun s'empressait à lui plaire.
Vous dites certains font fortune, certains se ruinent, mais les courtisans sont logés à Versailles. Ils sont logés, ils doivent payer pour être logés.
Pas au début, il n'y avait pas suffisamment de place.
Ils achètent, ont des hôtels particuliers. Tout Versailles est construit d'hôtels particuliers où ils, pour faire leurs courses, ils étaient obligés d'y vivre. Mais sinon, tous les, les grands, tous ceux qui avaient des charges importantes à la cour dormaient, vivaient au château de Versailles. Mais il fallait voir dans quelles conditions. Ouais. Ils avaient un petit salon et une chambre assez
rikiki.
Et ils avaient même au-dessus, si vous voulez, il y avait de quoi loger une femme de chambre ou un écuyer ou un valet de pied. Donc
c'est sous Louis XV que Versailles a fini d'être totalement construit. Oui, Versailles exactement. Était petit, il n'a en cessé fait, de grandir pendant tout le règne.
Oui,
de
Bruno
Louis XIV.
A raison. Tout sous le règne de Louis XIV, c'est un immense chantier.
C'est une auberge de jeunesse, finalement.
Non, il faut imaginer Versailles sous les échafaudages. C'est un chantier sous Louis XIV. Ouais.
Et donc, mais c'est Paris en ce moment, quoi.
On Paris avec Hidalgo.
On est obligé d'y aller pour faire sa cour, si vous voulez, exister. Mais il a réussi à domestiquer la noblesse pour se venger, justement, de ce qu'on disait avec Bruno, la fronde. C'est une humiliation, mais c'est très, très fort. Et au fond, Napoléon dira pas autre chose quand il a institué la Légion d'honneur en disant, mais voilà, avec il faut les occuper. Ouais. Ces soirées d'appartement finissent souvent en beauté avec des bals aux figures imposées ou trois fois par semaine en offrant des concerts à la cour. Le roi Soleil lui-même est un musicien plutôt doué, il joue du luth et fait gagner à la guitare ses lettres de noblesse en imposant son usage dans les antichambres de Versailles. Il y a ensuite les carousels qui, depuis la mort accidentelle d'Henri II en 1559, remplacent les tournois de chevaliers. Ces grandes fêtes ne sont réservées qu'aux hommes qui paradent en musique pour exhiber leurs talents équestres et guerriers. Leur richesse aussi, tête de dragon, trompe d'éléphant, bouquet de plumes, pierres semi-précieuses, les nobles s'éblouissent les uns les autres à coups de costumes somptueux. Et comme le roi décide qui doit y participer, eh ben il s'entraîne de longues heures et rivalise d'invention pour faire bonne figure. Louis XIV organise plusieurs carousels fastueux, dont deux particulièrement mémorables. En juin 1662, dans la cour des Tuileries, pour fêter la naissance du dauphin. Mais surtout, du 7 au 13 mai 1664, officiellement en l'honneur de sa mère Anne et de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, même si officieusement, ces 6 jours de fête sont dédiés à Mademoiselle de la Vallière, la maîtresse en titre du roi. Cette première grande fête donnée par Louis XIV installera Versailles comme le lieu de la fête par excellence. Et pour cause, les courtisans assistent durant 3 jours au défilé équestre du roi dans le rôle de Roger, le héros d'un roman italien du XVIe siècle qu'une magicienne tient prisonnier en son palais. Ce roman sert de thème pour cette grande fête. Oui, chaque fois, il y avait des thèmes, si vous voulez. Pour l'occasion, Louis XIV est vêtu d'habits de feu sur un harnais d'or, d'argent et de pierreries. Il est accompagné de cavaliers tout aussi somptueux qui descendent l'allée royale suivie du char d'Apollon. Quelques heures plus tard, Louis XIV se met en scène dans une comédie-ballet. Le spectacle écrit pour l'occasion par Lully et Molière prend fin avec l'embrasement du décor dans un inoubliable feu d'artifice. Les témoins assistent alors à travers les flammes à l'apparition de la magicienne sur une impressionnante baleine qui émerge du bassin royal.
C'était Dreamworks, c'est incroyable.
Pour la petite histoire, c'est aussi lors de cette semaine festive, le 12 mai 1664 précisément, que Molière présente son célèbre Tartuffe à la cour. La comédie montre comment un hypocrite manipule une famille en se faisant passer pour un homme de foi. Malgré le soutien du roi, la pièce fait scandale et se voit interdite par le clergé. Je vous passe les courses de chevaux, les jeux d'adresse, les collations servies par des serviteurs masqués et costumés au son de flûtes, de violons. Mais je ne résiste pas à vous raconter combien cette grande fête est un succès. Trop peut-être. Certains courtisans se plaignent. Le château de Versailles n'est encore qu'un château de taille moyenne et les invités sont si nombreux qu'ils ont dû, pour certains par manque de place, dormir dans leur carrosse.
C'est tragique.
On y prendra
sur le parking,
plus
dans la caisse, ouais. À l'ancienne.
On y prendra devant plus Louis XIV, qui rassemblera dès lors la plupart des fêtes de son règne en une seule et unique journée.
Europe 1, historiquement vôtre.